Arrête de regarder par la fenêtre, dit Lou Sander. Il n'y a rien qui puisse t'intéresser.
Todd le regarda, maussade. Son livre d'histoire était ouvert sur la table, montrant une reproduction en couleur. Teddy Roosevelt franchissant la colline de San Juan, les Cubains, réduits à l'impuissance, s'écroulant sous les sabots de son cheval. Le général avec un grand sourire américain. Le sourire de celui qui sait que Dieu est de son côté et que tout cède à la force. Todd Bowden ne souriait pas.
« Vous aimez traiter les gens comme des esclaves, n'est-ce pas ? » demanda-t-il.
« J'aime être un homme libre. Travaille. »
« La bite au cul. »«
Quand j'avais ton âge, » répondit Lou Sander, « on m'aurait lavé la bouche à la lessive pour avoir dit ça. »«
Les temps changent. »«
Vraiment. »
Lou Sander but une gorgée.
« Travaille. »
Todd le regarda en face.
« Vous n'êtes rien d'autre qu'un foutu alcoolo, vous le savez. »«
Travaille. »«
La ferme !»
Todd referma son livre d'un coup sec qui claqua comme un coup de fusil dans la cuisine.
« Je n'arriverai jamais à rattraper de toute façon. Pas à temps pour l'examen. Il reste 50 pages de cette merde, tout, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Demain, à l'étude, je copierai une feuille. »«
Tu ne feras rien de ce genre !»
lança durement le vieil homme.
« Pourquoi pas ? Qui m'en empêchera ? Vous ?»«
Gamin, tu as encore du mal à comprendre l'enjeu de notre partie. » Tu crois que ça me plaît de garder ton nez morveux dans tes livres ?
Sa voix monta, tranchante, exigeante, une voix de commandement.
Tu crois que cela m'amuse d'écouter tes crises de nerfs, tes injures puériles, la bite au cul ?
Limita férocement Lou Sander en prenant une voix de fausset qui fit rougir Todd jusqu'aux sourcils.
La bite au cul, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je le ferai demain, la bite au cul !
« En tout cas, vous aimez ça !»
cria Todd en retour.
« Ouais, vous aimez ça. Les seuls moments où vous ne ressemblez pas à un zombie, c'est quand vous me tombez dessus. Alors merde, foutez-moi un peu la paix !»«
Si on te prend à copier un examen, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis ? Qui l'apprendra en premier ?»
Todd regarda ses mains, ses ongles rongés, déchiquetés, et ne dit rien.
« Qui ?
Bon Dieu, vous le savez bien, Ed Caoutchouc. Et puis mes parents, je suppose. »
Lou Sander hocha la tête.
« Je suppose aussi, moi. Travaille. Mets ce que tu veux copier dans ta tête, là où ça doit être. »«
Je vous hais, »
dit Todd d'une voix morne.
« Vraiment. »
Mais il rouvrit son livre et Teddy Roosevelt lui sourit. Teddy entrant au galop dans le XXe siècle, un sabre à la main, les Cubains fuyant en désordre devant lui. Peut-être même devant l'impétuosité de son sourire américain. Lou Sander recommença à se balancer, tenant sa tasse à thé pleine de bourbon.
« Voilà un bon garçon, »
dit-il, presque avec tendresse. Todd eut son premier rêve érotique la dernière nuit du mois d'avril, et il se réveilla au son de la pluie qui murmurait des secrets dans les feuilles et les branches de l'arbre devant sa fenêtre. Dans le rêve, il se trouvait dans un des laboratoires de patine. Il était debout à l'extrémité d'une très, très longue table. Une jeune fille pulpeuse et d'une beauté stupéfiante était attachée sur la table avec des sangles. Lou Sander était son assistant, vêtu d'un tablier blanc de boucher et de rien d'autre. Quand il se tournait vers les appareils de monitoring, Todd voyait ses fesses maigres frotter l'une sur l'autre comme des galets difformes et blanchâtres. Il tendit quelque chose à Todd, quelque chose qu'il reconnut aussitôt sans l'avoir jamais vu. C'était un godemichet. Le bout était fait de métal poli et clignotait sous les néons, chrome impitoyable. Le gode était creux. Un fil noir en sortait comme un serpent, aboutissant à une poire en caoutchouc rouge.
« Vas-y, » lui dit Lou Sander. « Le Führer dit que tu as le droit. » Il a dit que c'est la récompense de ton travail.
Todd se regarda et vit qu'il était nu. Son petit pénis était en érection, fièrement dressé sur son mince duvet pubien. Il enfila le gode, qui le serrait, mais qui contenait une sorte de lubrifiant. Le frottement était agréable. Non, plus qu'agréable. C'était délicieux. Il baissa les yeux sur la fille et sentit comme un curieux changement dans son esprit, comme s'il n'avait plus qu'à suivre un chemin tout tracé. D'un seul coup, tout allait bien. Des portes s'étaient ouvertes. Il allait les franchir. Il prit la poire en caoutchouc rouge dans la main gauche, se mit à genoux sur la table et s'arrêta un instant pour choisir sa position, tandis que sa bite de Norvégien faisait un angle aigu en jaillissant de son corps mince et enfantin. Vaguement, de très loin, il entendait Doucander réciter « Test numéro 84. Électricité, stimuli sexuel, métabolisme. Basé sur la théorie de Thyssen sur le renforcement négatif. Le sujet est une jeune juive d'environ 16 ans, sans cicatrice, sans marque distinctive, sans infirmité connue. » Elle cria quand le bout du godemiché la toucha. Todd trouva ce cri agréable, de même que ses vains efforts pour se dégager, ou du moins pour refermer ses jambes.
« C'est ce qu'ils ne peuvent pas montrer dans ces magazines de guerre, » pensa-t-il. « Mais ça existe quand même. »
Soudain, il poussa et la pénétra brutalement, sans grâce. Elle hurla comme une sirène d'incendie. Après s'être démenée dans tous les sens pour l'expulser, elle resta parfaitement immobile et patiente. Le lubrifiant du gode glissait et frottait sur l'érection du gamin. Délicieux, paradisiaque. Les doigts de sa main gauche jouaient avec la poire en caoutchouc. Doucander, très loin, énumérait pouls, pression artérielle, respiration, ondes alpha, ondes bêta, pénétration. Lorsque son corps s'approcha du point culminant, Todd ne bougea plus et appuya sur la poire. Les yeux de la fille, qui étaient fermés, s'ouvrirent d'un coup, exorbités. Dans la grotte rose de sa bouche, sa langue se mit à volter. Ses bras et ses jambes frissonnèrent, mais c'était surtout dans sa poitrine que montait, redescendait, vibrait chaque muscle. Oh, chaque muscle bouge, serre, se ferme, chaque muscle, et la sensation ultime était l'extase. Oh, c'était un tonnerre de fin du monde dehors. Il se réveilla sur ce bruit et celui de la pluie. Il était recroquevillé sur le côté, en une boule sombre, le cœur battant comme celui d'un sprinteur. Son bas-ventre était couvert d'un liquide chaud et poisseux. Il eut un instant d'horreur panique, croyant être en train de se vider de son sang. Puis il comprit ce que c'était vraiment, et se sentit un peu dégoûté, nauséeux. Du sperme. Du foutre. La purée. La sauce. Des mots venus des palissades, des vestiaires, des toilettes de station-service. Rien là-dedans qui lui fasse envie. Il serra les poings, impuissant. Son orgasme de rêve lui revint, pâli, désormais absurde, effrayant. Mais ses nerfs étaient encore électrifiés, redescendant lentement de leur paroxysme. Cette scène finale, qui commençait à s'effacer,
était répugnante, et en même temps il ne pouvait y échapper, comme la surprise qu'on a en mordant dans un fruit tropical qui ne doit sa douceur extraordinaire, on s'en rend compte une seconde trop tard, qu'à ce qu'il est pourri.
Il n'y avait qu'un seul moyen pour qu'il puisse se retrouver. Il lui faudrait tuer Doucander. C'était la seule façon. Fini de jouer, fini de raconter des histoires. Il s'agissait de survivre.
Tue-le et tout est fini,
chuchota-t-il dans le noir, avec la pluie dehors dans l'arbre et le sperme qui séchait sur son ventre. Prononcer les mots les rendait vrais. Doucander gardait toujours 3 ou 4 bouteilles d'Ancient Age sur une étagère au-dessus de l'escalier de la cave, très raide. Il allait à la porte, l'ouvrait, déjà à moitié ivre le plus souvent, et descendait 2 marches. Puis il se penchait, posait une main sur l'étagère et saisissait la bouteille par le goulot avec l'autre main. Le sol de la cave n'était pas cimenté, mais la terre était dure et compacte, et Doucander, avec une efficacité mécanique qui maintenant paraissait à Todd prussienne plutôt qu'allemande, la passait à l'huile 1 fois tous les 2 mois pour empêcher les bêtes de se multiplier. Ciment ou pas, les vieux os se brisent facilement. tous les vieillards ont des accidents. L'autopsie montrerait que M. Denker était imprégné de niol quand il était tombé. Qu'est-ce qui s'est passé, Todd?
Il n'a pas répondu à la sonnette, alors j'ai pris la clé qu'il m'avait fait faire. Quelquefois, il s'endormait. Je suis allé dans la cuisine
et j'ai vu la porte de la cave ouverte.
J'ai descendu les marches et il...
Ensuite, bien sûr, des larmes. Ça marcherait. Il serait de nouveau en possession de lui-même. Todd resta longtemps dans le noir, à écouter le tonnerre s'éloigner vers l'ouest, sur le Pacifique, à écouter les bruits secrets de la pluie. Il se dit qu'il resterait éveillé toute la nuit, à sans cesse ressasser les mêmes choses. Mais il se rendormit quelques instants plus tard d'un sommeil sans rêve, un poing serré sous le menton. Il se réveilla le 1er mai, complètement reposé, pour la première fois depuis plusieurs mois.